Bonjour et bienvenue sur RFL Ciné. Je suis toujours en compagnie de Fouad. Salut Fouad.
Bonjour Lucie.
Et donc aujourd'hui, nous allons présenter deux films à l'affiche depuis la semaine dernière qui sont...
Je prononce très mal l'islandais, c'est Mjölk.
Mjölk.
Mjölk. Ouais, voilà, Mjölk. De moi, le dernier clapiche.
Donc un film français et un film islandais. Donc on va commencer par le film de clapiche. De moi, avec Anna Girardot et François Civil, qui n'a absolument rien à voir avec sa trilogie de l'auberge espagnole, des poupées russes ou du casse-tête chinois. On est sur complètement autre chose.
Oui, c'est donc effectivement, de toute façon, c'était annoncé comme étant la fin d'un cycle. Il revient à Paris. Nous avons donc un petit peu une vision de clapiche sur Paris après une longue période où il s'était éloigné depuis la recherche de son chat. Chacun cherche son chat.
Non, mais je encore connaissais pas l'expression.
Ouais. La recherche de son chat, c'est des points communs entre les films de clapiche parce qu'il y a encore une histoire de chat, mais plutôt anecdotique et allusive.
D'accord. Moi, le point commun que j'ai trouvé avec ces autres films, c'est dès le début, dès le générique. Donc dans l'auberge espagnole, on a l'avion. Dans les poupées russes, on a le train. Dans le casse-tête chinois, on a le sprint new-yorkais. Et dans ce qui nous lie, il y a le changement de saison. Ici, il y a le métro parisien. Un générique qui est toujours haut en couleur et en mouvement. Un peu hypnotique et qui rappelle du coup le rythme infernal de Paris. Mais toujours un générique assez saccadé, assez géométrique, avec du rythme et toujours du mouvement, du mouvement qui est défini par un moyen de transport.
Comme les personnages d'ailleurs aussi sont en mouvement. Mais toute la question d'ailleurs du film, entre autres, va être de savoir qu'est-ce qui meut les personnages, sans trahir le scénario et une histoire aussi de rencontre possible, de jeux croisés, jusqu'à la rencontre finale. Qu'est-ce que tu as pensé des personnages ?
Bah déjà, moi, j'ai eu une sorte de frustration tout au long du film, mais une bonne frustration, parce que c'est deux personnages qui vivent dans la même ville, qui vivent dans deux appartements mitoyens, quasiment qui vivent les mêmes choses au même moment, qui sont dans le même cycle, le même moment de leur vie, mais qui ne se croisent absolument jamais. Finalement, ils se croisent dans la rue, ils s'échangent un regard, comme cette personne que l'on croise de temps en temps, on sait qu'elle habite pas loin, on la croise de temps à autre, mais ça s'arrête là. Mais nous, on est les seuls à savoir qu'ils partagent la même vie au même moment et qu'il n'y a qu'une chose qui... La meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est qu'ils se rencontrent. Et donc, ça m'a vraiment fait penser à ces deux personnages des Demoiselles de Rochefort. Maxence qui cherche la femme de la peinture qu'il a peinte et elle qui cherche l'amour de sa vie. Alors, ils sont juste à côté, mais ils ne se rencontrent jamais jusqu'à la fin du film. Et du coup, il y a une sorte de délivrance. Dans ce film-là, je ne vais rien spoiler, du coup. Mais voilà, tout au long du film, on est tenu par cette envie de rencontre entre ces deux-là.
Oui, on a envie que l'histoire ait lieu, mais à ceci près, c'est que ce film, c'est que les deux personnages doivent d'abord aller vers eux-mêmes avant de pouvoir aller vers les autres. Alors et c'est ce qui fait qu'ils sont à la fois proches et loin. Et cette quête, elle est traduite notamment par leur séance chez le psychanalyste.
Interprétée d'ailleurs par Camille Cotin pour la psychanalyse d'Anna Girardot et par François Berléand pour le psy de François Civil, et qui sont d'ailleurs, qui apportent beaucoup au film, je trouve, beaucoup d'humour.
Oui, c'est vrai.
Et finalement, ce film, c'est une psychanalyse. C'est une sorte, parce que ça parle beaucoup, tout le monde peut se retrouver dans ce film-là. On a l'impression d'être dans le fauteuil, nous aussi.
Mais paradoxalement, ça parle beaucoup juste chez le psychanalyste, parce que c'est des personnages qui sont assez solitaires, sont chez eux. Le personnage masculin est encore plus solitaire, je trouve, que le personnage féminin ou que scène avec ses amis, ce qui n'est pas le cas du personnage masculin interprété par François Civil. Lorsqu'il est amené à être en société, c'est avec sa famille. Moi, je trouve qu'il y a une très très grande solitude des personnages, et ce sont des personnages bloqués par leur passé, et qui n'arrivent pas à dépêtrer de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des problématiques assez communes aux deux personnages, et qui fait qu'ils sont proches dans, comme tu disais tout à l'heure, un moment de leur vie où ils doivent passer à autre chose. Pour le personnage masculin, lui, il doit aller chercher un peu dans le passé ce qui l'arrête. Pour le personnage féminin, c'est plus un travail de deuil, je trouve, qu'elle doit effectuer pour pouvoir s'ouvrir et continuer à aller de l'avant.
C'est un peu un travail de deuil pour le personnage, pour Rémi, le personnage masculin aussi. Un deuil différent, un deuil de la mort d'un proche et un deuil pour une séparation du côté de...
Il doit plus briser un silence.
Oui, c'est ça, un silence, un tabou familial.
Voilà, un tabou.
Oui.
Un tabou qui est lié à son histoire familiale. Bon, on ne va pas en révéler quel est ce tabou, on ne va pas tout révéler, mais ça va être un moment clé dans son parcours personnel.
Mm-hmm.
Moi, je voudrais revenir un petit peu sur la mise en scène. Je trouve que c'est une mise en scène, on va dire, assez simple, mais dans le bon sens du terme.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que, par exemple, la proximité, l'éloignement des personnages est traduite par un montage alterné. Sans que ça soit lourd, sans que ça soit un procédé, et par des scènes similaires, que ce soit chez le psy ou des incidents de la vie. Et progressivement, ce montage alterné va disparaître puisque les deux personnages vont apparaître dans le même champ, là où ce n'était pas le cas avant, où Clapiche semble jouer un peu avec le spectateur. On se dit c'est là que ça va avoir lieu. Et il y a un petit incident qui fait que, bon, voilà, lui, le personnage passe devant la jeune fille et il se voit pas.
Notamment dans cette épicerie calme.
Alors, il y a aussi l'épicerie du quartier sur laquelle on reviendra, je pense, parce que je pense que c'est l'épicentre de la vision de Paris.
Oui.
Car ça incarne, c'est un lieu et à la fois, ça symbolise un petit peu le Paris tel que le voit et tel que le perçoit Clapiche. Il y a aussi un autre point que je trouve intéressant, et les plans d'ensemble, vus des fenêtres, des plans avec une qui font un petit peu, qui sont des plans connus. C'est Paris la nuit, illuminé, obscur.
Il y a aussi cette scène de deux immeubles coincés entre d'autres immeubles,
voilà.
Mais qui ne sont pas des bâtiments très larges, qui sont très très fins. Voilà, Wes Anderson avec tous ces bâtiments reliés très haut, pas large. Et,
oui,
et les deux personnes qui sont sur leur balcon, ces deux personnages, chacun sur son balcon.
Alors,
cette image est très belle.
Je pense qu'il y a eu un travail de repérage, puisque la jeune fille vit sous les toits dans un immeuble ancien. Et s'est collée à un immeuble plus moderne. Qui est l'appartement du jeune homme. Mais les deux fenêtres se côtoient, sauf que lui, il a un balcon qui est renfoncé par rapport à la jeune fille. Et donc, il ne peut pas y avoir de scène de rencontre, disons, de deux fenêtres à fenêtre, puisqu'il y a un décalage.
Mais c'est toutes ces petits détails qu'on prend pour des petites bêtises. Mais pourquoi l'architecte l'a pas construit à la même longueur que le bâtiment qui était à côté? Et du coup, on arrive à se poser des questions, mais énormément de petites questions à la place comme ça. Et tout ça, c'est dû à la frustration.
Et c'est ce que donc il exploite à la fois l'architecture de Paris qui a toujours présenté des bizarreries, puisque Paris, on casse un morceau, on reconstruit un autre, mais on regarde l'ancien qui est à côté. Enfin, il y a jamais une. Lui, il exploite justement ces décalages pour pouvoir travailler justement cette notion de rencontre qui plane dans l'air, mais qui semble toujours ajournée, toujours impossible, en raison de l'intériorité des personnages, mais aussi de la vie parisienne, tout simplement, qui crée de la solitude. Et à ce propos, il faudra qu'on évoque aussi les réseaux sociaux.
Qui sont très présents, qui sont plutôt évoqués comme quelque chose de nouveau chez ces personnages, comme si c'était la solitude qui les amenait, parce que finalement, ils utilisent les réseaux sociaux malgré eux, comme une obligation, comme pour trouver une porte de sortie à cette solitude qui finalement leur convient plutôt bien. Quelque chose, il y a une scène du film où je crois que le personnage masculin dit que finalement il aime être seul, ressentir la solitude dans une grande ville comme Paris. Je pense que la pression sociale fait qu'ils vont être amenés à utiliser ces réseaux sociaux, mais pas comme une habitude, plutôt comme une nouveauté.
L'anonymat que défend le personnage masculin, c'est par rapport à sa ville d'origine. Justement, il est tout fait sous la pression des regards, etc. Et tout le monde est au courant de tout. Je pense que tout le monde a plus ou moins fait l'expérience. Quand on apprend après qu'il y a un silence dans la famille, on se rend compte que justement, c'est aussi un certain anonymat lié à sa famille. Tout le monde sait tout sur tout le monde, mais l'essentiel est tu. Et donc, quand il va à Paris, il retrouve une forme d'anonymat qui le soulage. Mais d'une certaine façon, il vit aussi dans ce silence qui le rend solitaire. Moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Et pour la jeune fille, c'est effectivement... Là, on est plus proche de la pression sociale, puisque c'est ses copines qui lui expliquent un peu comment fonctionne Tinder, etc. Et elle se retrouve dans des situations un petit peu loufoques du fait de son inexpérience et aussi de la découverte et aussi du fait que Tinder, c'est aussi des rencontres un petit peu loufoques.
C'est vrai, oui. Et tout ça sur le ton de l'humour. Et c'est un film que je vous conseille, qu'on vous conseille, je pense, avec un spécial guest qui m'a tordu de rire, Pierre Ninet, qui fait une petite apparition brève, mais efficace.
Ouais, c'est très, très efficace et très, très amusant.
Oui,
effectivement.
Oui. C'est un bon moment, un très bon moment.
Un petit bémol, effectivement, faut aller le voir, c'est un très bon moment, c'est un bon film de rentrée, je trouve.
Oui.
Sous une apparente morosité et plein d'enthousiasme et d'optimisme, je trouve. Si ce n'est, bon, moi je dirais de manière un petit peu sévère qu'on est plus proche du téléfilm que du film.
Bah, disons qu'il y a il manque une certaine profondeur dans le discours,
voilà.
Mais voilà, c'est un feel-good movie mêlé à une sorte de petite psychanalyse qui fait toujours du bien et voilà, et puis ça fait plaisir de retrouver Clapiche.
C'est un peu comme Woody Allen.
Voilà, c'est ça. En tout cas, on va écouter une chanson qu'on peut entendre dans le film, qui est une reprise de Luz Casal, L'histoire d'un amour.
Qui résume assez bien le film finalement.
Oui.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
Expliquer cette crise de panique dans le métro.
Une dépression ?
Peut-être.
C'est important de pouvoir parler de choses tristes. Parce que le cinéma n'est pas que sur les gens gays. et les gens qui vont bien. Je pense qu'on est dans une époque très normative et où on a l'impression que tout le monde va bien. Les gens ne vont pas tous bien. Donc, dans ce film-là, c'était important de parler des gens qui sont fragiles. Elle a été amoureuse, elle s'est séparée d'un garçon et elle va pas bien du tout depuis cette séparation. Lui, il a des problèmes plutôt sociaux, c'est-à-dire qu'il a subi un licenciement, il est dans un problème lié au travail. Et donc, le burn-out, les choses comme ça, aujourd'hui, les gens en parlent beaucoup. Et c'est vrai que c'est important de parler des gens qui vont pas bien ou qui sont fragiles et de pouvoir en parler en faisant de la comédie. Ce que j'adore dans Chaplin, c'est de pouvoir parler des temps modernes, de dire voilà, le travail à la chaîne, c'est l'esclavage moderne, mais de pouvoir rire de ça. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé dans ce film.
Et ben on va terminer là-dessus. Fouad, je te remercie.
Merci Lucie.
Et puis je te dis à la semaine prochaine.
Ouais, la semaine prochaine.